Donc je vais tout simplement me lancer dans le sujet qui nous occupera aujourd'hui, qui est le gouvernement des fixeurs. Néanmoins, un petit résumé sur ces dernières semaines où nous nous sommes intéressés au rapport de pouvoir entre les fixeurs, la mise en jeu de leur corps, de leur vie, et donc le rapport entre les fixeurs et les entités politiques, les États qui se servent d'eux, notamment la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis. Et à chaque fois, nous avons pu observer que le fixeur déstabilise la notion que l'État interventionniste a de lui-même. Je parle exprès ici du fixeur, au singulier, puisque à aucun moment nous n'avons vu émerger une organisation politique sur le terrain. Or, ce phénomène de jeu de pouvoir entre le fixeur et l'État, je le pense ici en tant qu'entité politique, quelle que soit sa réalisation, est un phénomène de longue durée, comme l'ont démontré Jane Burbank et Frederick Cooper dans Empire, depuis De la Chine ancienne à nos jours, livre publié en 2011 et traduit la même année en français. Burbank et Cooper constate la tension entre l'arrogance des conquérants, que ce soit celle de l'Empire romain en Gaule ou de l'Empire britannique en Afrique, de se penser comme maître du monde, et la nécessité, donc la tension entre l'arrogance des conquérants et la nécessité qui se présentait à eux de rechercher la coopération d'intermédiaires parmi des populations qu'ils considéraient comme barbares. Et on voit aujourd'hui, disent Cooper et Burbank, on voit aujourd'hui cette tension à l'œuvre en Irak et en Afghanistan. Donc de la Rome antique jusqu'en Irak, les auteurs soulignent la discordance entre une arrogance dans la conception dominatrice du monde, d'un État occidental, et sa déstabilisation continue par rapport aux intermédiaires sans qui la tentative même de domination ne serait pas envisageable. Et nous avons donc pu voir ce malaise de « nous sommes les maîtres du monde, mais nous avons besoin des intermédiaires locaux, autochtones », se traduire par le refus de rapatriement des fixeurs et le refus d'une reconnaissance par l'État, une absence de courtoisie qui laisserait la vie, c'est-à-dire ne donnerait pas la mort, après que les fixeurs avaient eux-mêmes sauvegardé la vie des soldats occidentaux. Le douzième point que fait ressortir la perspective de la longue durée est le constat que, quelle que soit l'entité politique sur le terrain, que ce soit donc l'État-nation, l'État-empire ou l'Empire, il y a un paramètre dont aucun État conquérant ou intervenant ne peut se passer, et c'est l'intermédiaire, le fixeur. Sans le fixeur, pas d'administration, pas de conquête même. Les exemples de Burbank et Cooper sur la durée de 2000 ans montrent sans appel que sans intermédiaire, aucun empire n'était capable de gouverner un domaine étendu et dont les territoires pouvaient être éparpillés. Mais ils pouvaient gouverner de façon différente avec les fixeurs, et en voici les trois modes principaux. Soit les agents du centre impérial et les colons arrivaient avec les réseaux et les valeurs de la métropole, ou alors une autre démarche consistait à inciter les élites locales à coopérer avec la puissance impériale, et une troisième possibilité qui était l'utilisation d'individus sélectionnés et extraits de leur milieu social par asservissement, par compétition ou par un autre moyen. Et les auteurs ajoutent en conclusion que partout les intermédiaires étaient essentiels, mais aussi dangereux pour leur maître. C'est bien ce que de multiples mouvements d'indépendance ou révolutions nationales ont prouvé au cours des deux ou trois derniers siècles, partout dans le monde, en Amérique latine, en Afrique, aux Balkans, au Proche et Moyen-Orient. Burbank et Cooper suivent cette lente évolution de l'insurrection des intermédiaires contre leur maître, qui devient une révolution nationale et qui est une révolution aussi contre l'Empire. L'insurrection des intermédiaires marque la période moderne, c'est-à-dire depuis la fin du XVIIIe siècle, notamment on peut penser ici à la révolution haïtienne de 1791. Nous quittons maintenant le contemporain avec la question, une question en suspens, à moins de faire une révolution, pas de reconnaissance, pas de sujet, pas de courtoisie pour les fixeurs. Et c'est là où je fais un passage, finalement, on s'est beaucoup interrogé sur l'état des fixeurs, c'est-à-dire quel est leur statut, quel est leur état éthique, quel est leur état peut-être même émotionnel, quel est leur rôle. Et on passe de cette idée d'état à une autre forme d'état des fixeurs, qui est peut-être le seul état qui peut leur être accordé, mais qui serait donc de l'ordre d'entité politique. On peut constater que la révolution des fixeurs a pour conséquence que la forme impériale cède à l'État-nation. Et j'aimerais m'attarder sur la forme impériale qui dominait le monde avant l'État-nation, c'est-à-dire sur l'Empire médiéval et l'Empire de la première modernité, et non l'État-empire industriel colonial du XIXe et XXe siècle. Un empire ne peut pas fonctionner sans intermédiaires qui sont la colonne vertébrale de son administration. Les intermédiaires sont vraiment le moteur de l'empire. Notre Marco Polo, le voilà, a bien saisi l'importance de cette connectivité par les fixeurs qui unissaient l'empire. Nous avons déjà vu, lors de la leçon du 8 juin, que la monnaie en papier, c'est ce que vous voyez, fonctionnait comme la langue universelle de l'Empire. Et c'est sa circulation qui unissait l'Empire. Personne ne pouvait se soustraire à l'échange des objets et des matières primaires, l'or, l'argent, la soie, les perles. Donc personne ne pouvait se soustraire à cet échange contre la monnaie papier, contre ce signe pur. Et je cite Marco Polo, « Nul n'ose la refuser sous peine de perdre la vie ». Le chapitre qui suit immédiatement la description de la monnaie commune donne un deuxième exemple de l'unicité de l'Empire par les intermédiaires. C'est le système de messagerie. Et c'est ce que vous voyez ici, toute la circulation en fait, des messages et des messagers que le grand Khan reçoit. Je cite. Sachez encore que tous les 25 ou 30 000, on trouve ces postes dont je vous ai parlé. C'est le cas de toutes les principales routes qui vont aux provinces que je vous ai décrites. Et à chacun de ces postes, les messagers trouvent de 300 à 400 chevaux tout prêts à leurs ordres. Et encore, les messagers y trouvent de si beaux palais, comme je vous ai décrit, où ils logent dans l'abondance. Et de la manière dont vous l'avez entendu, les messagers du grand seigneur voyagent partout. Il nous dit, Marco Polo, qu'ainsi ils peuvent traverser de 250 à 300 milles par jour. Le Grand Khan possède également un système de messagers à pied qui se relaie sur une distance de 3 milles. Je cite, « Sachez que ces hommes à pied traversent 10 journées en un jour et une nuit. Et en deux jours et deux nuits, ils rapportent des nouvelles de 20 journées. Et également, on reçoit en 10 jours et 10 nuits les nouvelles de 100 journées. » Donc, vous voyez ici, dans l'image que je vous présente du manuscrit ici à la BNF, qui est probablement le manuscrit le plus connu enluminé du devisement du monde, vous voyez bien et les messagers à cheval et les messagers à pied, et cette, comme je disais, cette circulation permanente autour du trône du Grand Khan. Ce système de messagerie, fait pour être efficace pour la protection de l'Empire comme pour le fonctionnement administratif, est suppléé par les messageries des envoyés qui s'occupent des affaires du Khan. C'est les messages qu'il mandait, qu'il envoyait à travers les diverses parties du monde, dit Marco Polo. Et c'est bien la première expérience que Marco fait à la cour du Grand Khan quand il est envoyé en ambassade pour les affaires. Et comme il dit, il a fait l'effort d'y aller durant 6 mois. Il y a donc bien un système de communication qui est suppléé par un système d'administration, le tout fait de plusieurs réseaux d'intermédiaires, des réseaux à plusieurs niveaux. Alors si l'Empire ne peut pas fonctionner sans intermédiaires, il ne serait pas faux de dire que l'Empire est un gouvernement des fixeurs. Et si l'Empire est le régime politique qui se sert par nécessité des intermédiaires, et la première nécessité ici, c'est celle linguistique et culturelle pour relier la diversité des diverses régions, régions du monde, comme dirait Marco Polo, et donc que l'Empire les cultive même en grand nombre, l'Empire est inversement la forme politique naturelle pour la prise du pouvoir des fixeurs. Autrement dit, plutôt que d'observer les révolutions nationales provoquées par les intermédiaires impériaux et qui ont signé la fin des empires modernes et la naissance de nouveaux États-nations, je vous invite à observer les agencements des fixeurs dans leur moule naturel, l'Empire. Sans qu'il s'agisse de révolution nationale et d'État-nation, qui est un trait de la modernité, et d'ailleurs c'est un trait, n'est-ce pas, très bref dans l'histoire impériale millénaire du monde, peut-il y avoir, au-delà d'un gouvernement des fixeurs, un État des fixeurs? Cet État des fixeurs serait-il lié à, voire dépendant de l'Empire? L'Empire ne serait-il pas la forme naturelle pour un État des fixeurs? Il y a une autre façon de poser cette question. Si on a pu constater qu'il y a une expérience partagée par les fixeurs, et nous l'avons vu à travers les époques, entre le médiéval et le contemporain, donc s'il y a une expérience partagée, y a-t-il pour autant une expérience commune, ou au moins une expérience exploitable en commun? C'est là cette idée, n'est-ce pas, de passer d'un état des fixeurs à un autre état des fixeurs. Dans l'histoire médiévale, nous connaissons plusieurs états ethnies, et permettez-moi de ne pas associer ici ni l'état ni l'ethnie avec nation, qui est une idée anachronique pour le Moyen-Âge. Et donc on connaît plusieurs états ethnies qui se sont fait fixeurs, ou qui se sont même spécialisés en fixeurs pour satisfaire les besoins des chrétiens catholiques, marchands et croisés. Le plus important pour les chrétiens de l'Ouest, selon les auteurs des traités de croisade, c'était l'Arménie. Malheureusement, je n'ai pas le temps vraiment de rentrer dans le détail pour analyser le rôle que leur assignent les traités de croisade. Mais l'autre état fixeur auquel je pense, c'est la République de Venise, la Sérénissima. L'empire colonial vénitien, maritime et côtier, s'affirme définitivement suite à la conquête catholique de Constantinople en 1204. Après la chute de Constantinople, 250 ans plus tard, la chute aux Ottomans en 1453, les Vénitiens seront les premiers à développer l'office de dragomane au divan ottoman. Et ça sera la première ébauche, finalement, d'une sorte de professionnalisation du fixeur. Et puis, il y a la Bourgogne du XVe et du premier quart du XVIe siècle qui nous occupera jusqu'à la fin du séminaire, ce fixeur hors pair, à la fois marchand des nobles, urbaine comme rurale, princière, ducale comme impériale. Alors que Venise est une cité marchande et une république avec l'élu à sa tête, il doge. La Bourgogne est une principauté aux allures monarchiques et impériales sous l'autorité d'un prince héritier, le duc, qui rassemble des territoires disparates et où les villes disposent d'une grande autonomie des privilèges. Depuis le début du XVe siècle, les Bourguignons agissaient comme un état fixeur. Pendant la guerre de Cent Ans, entre le royaume de France et le royaume d'Angleterre, Jean sans peur d'abord, puis son fils Philippe le Bon, tous les deux ducs de Bourgogne, maintenaient l'Angleterre et la France dans un équilibre précaire et usant entre 1406 et 1435. Le soutien de Philippe le Bon à l'un ou à l'autre royaume déterminait l'issue de cette longue guerre qui avait commencé en 1337 et qui n'entame un apaisement qu'après 1435. C'est comme si, après avoir appris les règles de jeu entre les deux puissants royaumes, dès la fin des années 1430 et plus activement dans les années 1440 et 1450, que Philippe le Bon peut également poursuivre une politique de fixeur en Méditerranée. Il fait plusieurs interventions dans la Méditerranée, et surtout la Méditerranée de l'Est, à Rhodes, à Chypre, sur la côte asiatique. Après, ça sera aussi sur la côte africaine sous Portugal. Et finalement, en 1454, il fait un vœu de croisade au fameux banquet du faisan à Lille. Donc c'est après la chute de Constantinople en 1453. Et alors que les contacts entre le duc, le pape, les chevaliers de Rhodes et les franciscains du mont Sinaï s'accélèrent, en 1461, Philippe adopte le titre de grand duc du Ponant. Alors, le Ponant, pourquoi ? Parce que la Bourgogne était l'intermédiaire entre l'Orient et l'Occident, le Ponant faisant la paire avec le Levant. D'ailleurs, la Bourgogne a assumé ce rôle à cause d'un événement qui a failli être catastrophique. L'armée franco-bourguignonne, dont le chef était Jean de Nevers, le futur duc Jean sans peur, part en croisade pour secourir Sigismond de Hongrie, mais subit en septembre 1396 une défaite meurtrière face aux Ottomans à Nicopolis. Jean de Nevers, le père de Philippe le Bon, est capturé, 22 ou 23 nobles sont sauvés et le sort des autres sera l'exécution ou l'esclavage. Et cet événement a eu lieu 3 mois après la naissance de Philippe, le futur Philippe le Bon. Alors à quoi ressemble la géographie d'un État fixeur? Voici la Bourgogne de la deuxième moitié du XVe siècle. C'est cette carte que vous avez ici sous les yeux, c'est sous Charles le Téméraire. Ce n'est pas celle que nous connaissons aujourd'hui, et qui correspond plutôt, celle d'aujourd'hui, qui correspond plutôt au duché de Bourgogne, avec lequel a commencé l'expansion bourguignonne du XVe siècle. Alors la Bourgogne du XVe siècle était composée du duché de Bourgogne et du comté de Bourgogne, je reviens, dit Franche-Comté, et des Pays-Bas bourguignons. On les appelait respectivement les pays par-delà et les pays par-deçà la Champagne. Tout avait commencé en 1363, quand le roi Jean II de France donna à Philippe le Hardi, son fils cadet, son dernier fils, le duché de Bourgogne en apanage, créant une sorte de province princière, ducale et autonome, puisque le duc de Bourgogne n'était que nominalement le vassal du roi de France. L'assemblage des Pays-Bas bourguignons commence en 1384, quand Philippe le Hardi hérite, par son mariage avec la fille du comte de Flandre, Marguerite de Flandre, les comtés de Flandre et de Rethel, les villes d'Anvers et de Malines, ainsi que les comtés de Bourgogne-Franche-Comté, d'Artois et de Nevers. Et ce sera son petit-fils Philippe le Bon qui annexera en 1428 les comtés de Hainaut, de Hollande et de Zélande, qu'il hérite par force de sa cousine Jacqueline de Bavière. Son pouvoir sera effectif dans ces territoires à partir de 1433. Il achète aussi le comté de Namur en 1429 et hérite le Brabant et le Limbourg en 1430. Et finalement, il acquiert le duché de Luxembourg en 1441 et il assoira son pouvoir en 1443. Voilà, donc ça va devenir ça. La Bourgogne n'est pas un exemple unique ou rare de la nature composite des États. État dans le sens d'entité politique, la polis grecque, régime politique. Mais elle représente néanmoins un cas extrême. Walter Prévenier et Wim Blokmans l'ont appelé le complexe bourguignon. La discontinuité territoriale que vous pouvez voir ici, hein, on le voit très très bien, on a donc voilà, la Bourgogne, les Pays-Bas bourguignons, voilà, le duché de Luxembourg, et puis c'est la Bourgogne, duché et comté, avec le comté de Nevers. Il y a un petit problème ici, hein, c'est la Lorraine. Donc, la discontinuité territoriale de la Bourgogne, le manque d'intégrité territoriale et l'annexion des territoires sur le principe de respect des coutumes et privilèges de chaque nouveau territoire signifiait que ce complexe se rassemblait autour de la figure du prince et la communauté des institutions. Mais la souveraineté du duc s'articulait à des échelons différents selon le territoire acquis et après les négociations constamment renouvelées. Les communautés différentes, surtout les villes très indépendantes, ne se fédéraient pas autour d'un concept, d'un abstrait politique. La Bourgogne n'avait pas de ville capitale, sa cour était itinérante, elle n'avait pas de roi, hein, elle n'avait pas de langue unique, elle n'avait même pas un nom unique qui unirait tous ces territoires, et elle n'avait pas de théorie politique. le concept de la chose publique, qui apparaît assez tard, est le plus proche d'une théorie politique, même s'il n'est pas unique à la Bourgogne. En Bourgogne, il désignait le bien commun, la prospérité et la justice, et la fidélité au prince, plutôt qu'à une entité abstraite qui serait l'État. Comme l'a justement rappelé Patrick Boucheron dans son séminaire du 15 mai 2018, cette chose publique est en réalité vide. C'est un dispositif de maintien en place, un bouche-trou. Il n'y a pas de façon de l'inaugurer et par la suite, pas de façon de le commémorer. Et c'est bien cela le problème. D'où l'état de friction et de tension permanente entre les villes et la gouvernance des ducs Philippe et Charles, qui tentaient de s'approprier l'autorité indisputable, et d'autre part les villes qui tentaient de maintenir leur autonomie de privilège. Ainsi, la Bourgogne n'était pas un état stable, une entité géopolitique qui aurait des limites clairement tracées et fixes, et elle était plutôt un état en devenir, peut-être un royaume inachevé, comme l'a appelé Élodie Le Cupre Desjardins dans son ouvrage récemment paru. Le séminaire d'aujourd'hui est d'ailleurs une manière détournée pour répondre à la question s'il y a eu un État bourguignon et quel a été ce régime politique. Je préfère la définition de l'Empire, une forme étatique fondée sur les composites ou les conglomérats d'ethnies, langues, histoires et très souvent religions multiples. Reconnaître cette pluralité et instabilité rend visible le potentiel impérial des différentes entités politiques médiévales. Les empires historiques étaient adaptables, en formation constante, à la cartographie fluctuante. Nous venons de voir que la Bourgogne des Valois n'a finalement cessé de changer de visage pendant 60 ans, entre 1384 et 1443. Et les changements reprendront avec Charles le Téméraire. En effet, on peut donc voir sur cette carte que la Bourgogne a l'allure d'un empire, elle est un recueil de morceaux disparates. C'est une véritable miscellanée médiévale, comme les manuscrits médiévaux, qui sont des recueils de textes des plus hétéroclites. Et plutôt que la figure du prince, la loyauté, la fidélité assermentée, ce qui faisait tenir ensemble toute cette partie non contiguë, comme dans un empire, était le réseau des intermédiaires et d'agents, de ces officiers de l'armée, de l'administration et du judiciaire, dont témoignent amplement les archives bourguignonnes. La Bourgogne était donc une pratique de l'espace, une pratique du composite, traversée par de nombreux agents du duc, liés à lui par la fidélité assermentée. C'est la pratique de l'espace et l'échange par les administrateurs qui unit le composite et le disparate. Les éléments de cet état composite fonctionnaient sur la base d'une large autonomie, ils étaient liés au duc par la fidélité, mais unis dans la pratique par le réseau des intermédiaires. Donc sans la connectivité et la transversalité des fixeurs, pas de Bourgogne. Alors après la géographie, encore un petit peu d'histoire, et on en finira bientôt, je vous promets. Cette allure d'empire se reflétait dans la recherche du titre impérial. Ce n'est pas donc une histoire, et je veux vraiment insister là-dessus, ce n'est pas donc une histoire de ressemblance, mais d'agissement pour donner une forme politique à ce qui est déjà présent matériellement. Je passe rapidement en revue les efforts visant à obtenir le titre impérial pour les Valois de Bourgogne. Philippe, et je ne peux pas tous les énumérer, mais je cite les plus importants. Philippe a d'abord cherché en 1447 à transformer en royaume la Frise. La Frise que malheureusement on ne voit pas ici, la Frise occidentale, mais qui est là, en fait, est là. Il a cherché à transformer en royaume la Frise, dont il avait acquis le titre avec la Hollande, auprès de l'empereur romain Frédéric III, ce qui aurait été le début de la recherche du titre impérial. Plus tard, son effort le plus concret fut la proposition du mariage en 1463 entre sa petite-fille, Marie de Bourgogne, fille de Charles, et le fils de l'empereur Frédéric Maximilien. Cette même proposition de 1463 sera reprise par son fils Charles le Téméraire rapidement après son ascension au titre de duc en 1467. Finalement, en 1473, Marie et Maximilien seront fiancés au même moment que Charles demande le titre de roi des Romains. Et c'est en essayant de rendre ces domaines contigus que Charles le Téméraire mourait au siège de Nancy. Donc, Nancy, voilà, c'est ça, comme je disais avant, c'est ça le problème. Donc, il meurt en 1477, au siège de Nancy, et la même année, sa fille, Marie de Bourgogne, épousera l'archiduc Maximilien de Habsbourg, qui deviendra régent. C'est le fils de Maximilien et de Marie, et le petit-fils de Charles, Philippe le Beau, duc de Bourgogne, qui accédera au titre de roi de Castille en 1506. Sa mort prématurée laissera un jeune fils, Charles, qui en 1516 deviendra roi de Castille et d'Aragon, roi des Espagnes, et en 1519, il deviendra l'empereur des Romains. C'est Charles Quint. Voilà, voilà notre empire. Quel est ce passage entre le fixeur et l'Empire, entre Philippe le Bon et Charles Quint? Comment la Bourgogne passe-t-elle de cet état fixeur? Comment arrive-t-elle à se penser comme un état des fixeurs, comme un empire? Et comment, par ce processus, le duché des Valois fait-il advenir l'Empire bourguignon? Cela pourrait s'expliquer comme le produit d'une tradition. Je vous ai parlé de la guerre de Cent Ans. Une tradition, ils ont l'habitude d'être fixeurs. Ou le résultat d'un traumatisme, Nicopolis, n'est-ce pas? Encore une fois, ils ont appris comment faire fixeur entre l'Orient et l'Occident. Mais je voudrais démontrer que le positionnement de la Bourgogne comme méditerranéenne, comme impériale, est en fait le résultat d'une activité de translatio, de fixeur, de la conversion de sa puissance d'état fixeur en un état des fixeurs, et cela par le biais d'un autre réseau d'intermédiaires dont on n'a pas l'habitude d'inclure l'activité dans cette grande archive historique, ou du moins à l'activité duquel on ne donne pas la même importance hiérarchique dans l'histoire. Et on va commencer maintenant à faire l'histoire de ces autres fixeurs. Voici le portrait du duc, écrit en 1462 par David Aubert, l'écrivain, c'est-à-dire le scribe, le secrétaire de Philippe, dans le prologue de l'Histoire universelle, l'histoire abrégée des empereurs, ou chronique dite de Baudouin d'Aven. Alors je l'ai laissé en moyen français parce que c'est une langue si belle, mais je vais vous la lire avec une traduction mise à jour. Et pour vous avertir, ce très renommé et très vertueux prince a depuis longtemps pris habitude de faire lire devant lui les anciennes histoires chaque jour. Et pour être garni d'une bibliothèque non pareille à toutes les autres, il a dès son jeune âge eu à ses gages plusieurs traducteurs, grands clercs, orateurs experts, historiens et écrivains, et dans les diverses contrées, travaillant diligemment en grand nombre. Tant qu'aujourd'hui, c'est le prince de la chrétienté, sans aucun doute, qui est le mieux muni de authentiques et riches bibliothèques, comme tout cela peut être clairement mis en évidence. Et combien qu'au regard de sa très excellente et très noble magnificence, ce n'est que peu de choses. Toutefois, ce doit être rappelé pour toujours, afin que tous les autres se mettent à suivre ses hautes vertus qu'il avait toujours en abondance. Et tout spécialement, il a par son sens et conduite tenu la chrétienté en grand paix. Par son humilité et débonnaireté, il a refusé les grandes seigneuries qui lui étaient présentées, non voulant et usurper l'autrui. Et en conclusion, c'est aujourd'hui le plus honoré prince, le plus aimé, le plus redouté et le plus renommé de toute la monarchie du monde. Donc le duc a arrangé, négocié, conclu et maintenu la paix dans la chrétienté, et cela en refusant les titres qui lui ont été offerts. On retrouve le même portrait d'un conquérant magnanime dans son refus de titre, dans la description de Vaz de Lucène en 1468, un an après la mort du duc, dans sa traduction des faits d'Alexandre le Grand, encore un empereur. Lucène appelle Philippe l'Alexandre de notre temps, car il se montra si vaillant en conquête, plus magnanime dans le refus des principautés, royaumes et empires, que Alexandre ne se montra jamais en les conquérant. Georges Châtelain, l'historiographe ducal, complète ce portrait dans un ouvrage écrit entre 1467 et 1468, donc dans l'immédiat de la mort du duc, et il dit les choses suivantes. Quand le duc a quitté l'alliance avec les Anglais et s'est rallié au roi français en 1435, dit Châtelain, il fit de sa main, ennemi par avant, à titre de vengeance, il fit d'elle désormais une servante et loyale amie, par reconnaissance de son devoir. Il a donc aidé les autres, préférant ne pas usurper leurs droits, donc il a remis Louis XI paisiblement dans son royaume, et il a promu lui seul le roi Édouard à la couronne d'Angleterre. En plus, il a refusé la couronne impériale à la mort de l'empereur Sigismond en 1437. Et voilà ce que dit Châtelain, il a été adopté à l'Empire et le refusa. Une seconde fois après, l'autre empereur mort, c'est Albert II, il le refusa encore. Et la troisième fois, refusa encore du temps de Frédéric le Tiers. Donc, pour revenir au portrait dressé par Aubert dans l'histoire abrégée des empereurs, hein, c'est pas anodin, celui-ci fait un lien clair entre collectionner les livres et faire la paix. Il invite tous les lecteurs et auditeurs à prendre le duc en modèle. La magnificence de la bibliothèque ducale est un substitut pour l'ambition impériale et la guerre. Aubert propose que les grands souverains doivent faire des bibliothèques, pas la guerre. Si la paix caractérise la politique ducale, c'est la bibliothèque qui l'élève au plus haut rang, puisque la bibliothèque ducale est plus riche et grande que celle de n'importe quel roi. C'est la taille de la bibliothèque de Philippe qui fait Philippe plus roi que tous les rois en titre, c'est son abondance qui l'intronise roi des rois, c'est-à-dire l'empereur, le plus honoré prince, le plus aimé, le plus redouté et le plus renommé de toute la monarchie du monde. Mais ce qu'Aubert souligne surtout, c'est le rapport entre la bibliothèque et l'Empire. Il les met à égalité. Refuser les grandes seigneuries qui lui étaient présentées, refuser l'Empire, veut dire avoir une bibliothèque richissime. Ce n'est pas entièrement vrai, hein. Le duc a une bibliothèque et il cherche le titre impérial. Sa bibliothèque est son empire. Si Aubert, le secrétaire du duc, et Châtelain, le chroniqueur du duc, embellissent l'image du duc comme déclinant l'Empire et donc comme faiseur de paix, et bien sûr la pacification c'est le rôle de l'empereur de l'Ouest, c'est aussi pour maquiller le non-aboutissement, le non-avènement de la politique de Philippe visant à transformer son état fixeur en un état défixeur, un empire. Mais cela ne fut qu'un hasard de parcours, ou plutôt une question de temps. Car quand je dis que la bibliothèque des ducs est leur empire. Je ne me moque pas des ducs de Bourgogne. Je ne les prends pas pour des Don Quichotte qui ne pouvaient régner que sur leur bibliothèque. Non, comme nous le verrons, le duc a une bibliothèque qui est déjà l'empire. Un empire des livres, un empire par les livres. Ce que je veux dire par cela, c'est un empire des livres deviendra un empire advenu par les livres. La matérialité de la bibliothèque réalisera la potentialité d'un devenir impérial. Je ne voudrais donc pas suggérer que la bibliothèque est une fiction de l'Empire, parce qu'elle projette un empire et échoue dans ce projet, et que donc la bibliothèque, le lieu même où se loge la fiction, ne peut être qu'un rêve. Je ne veux pas dire cela. Au contraire, elle est un schéma, elle est une esquisse préparatoire pour le façonnage de l'Empire, un façonnage qui réussira. Et je m'expliquerai. Mais d'abord, il faut voir le rapport presque structurel entre la bibliothèque et l'Empire. Comparable à sa description de 1462, celle que vous avez toujours sous vos yeux, en 1463, David Aubert dit de Philippe dans son Histoire des trois fils de roi la chose suivante. Et nonobstant que ce soit le prince sur tous les autres muni de la plus riche et noble bibliothèque du monde, il est molt enclin est désireux de chaque jour l'accroître comme il fait, ce pourquoi il a au quotidien, dans les diverses contrées, des grands clercs, orateurs, traducteurs et écrivains à ses propres gages qui sont occupés à cette tâche. C'est donc toute une gamme d'intermédiaires. Outre ceux dont parle Aubert, clercs, orateurs, traducteurs, écrivains, et il parlait aussi des historiens dans la description précédente, il y a aussi des secrétaires, des peintres, des maîtres d'atelier, les libraires, qui au Moyen-Âge sont des fabricants et marchands des manuscrits, et les conseillers du duc, qui forment tous ensemble un réseau capillaire d'écriture du monde bourguignon. Si on accepte non la coïncidence, ni la similitude, ni l'analogie entre d'une part les fixeurs, intermédiaires, administrateurs de l'État composite bourguignon, on pourrait dire d'une part les fixeurs politiques. Donc si on n'accepte pas cette coïncidence entre les fixeurs intermédiaires administrateurs et d'autre part les fixeurs de sa production écrite et visuelle, ce qu'on nomme d'habitude la production culturelle, si donc on refuse l'analogie entre les fixeurs de l'État et les fixeurs de la culture, mais en revanche si on accepte qu'ils sont tous des intermédiaires de même rang, équivalents, alors la gouvernementalité ne l'emporte pas sur la production culturelle, mais la production culturelle est aussi effective que la gouvernementalité. J'irai même plus loin et dirai que la culturalité est la gouvernementalité. Elle est effective de la gouvernementalité. Alors je détourne bien sûr ici un peu le propos de Michel Foucault sur la gouvernementalité, j'en fais ce terme de la culturalité, mais c'est parce que je veux éviter absolument d'utiliser le terme de culture. Je ne veux pas dire culture, mais je veux évoquer avec la culturalité tout un ensemble de discours. Voici une illustration de la culturalité et de la gouvernementalité. Vous vous souvenez qu'en 1464, Louis de Gruthuse a commandé le manuscrit de luxe de Gillion de Trazegnies, traduit et amplifié par David Aubert, toujours le même, et peint par Lieven van Lathem. Le fixeur parcourt le monde mu par son désir de trouver et traduire des histoires dignes d'être traduites. Et puis, il offre son traduction au marché, pas au prince. Nous avons dit que ce frontispice fait voir les agencements des intermédiaires, mais on les voit encore mieux dans cette autre image. Il s'agit du frontispice des chroniques et conquêtes de Charlemagne, empereur, hein, traduit de nouveau par David Aubert en 1458, commandé par Jean de Créqui pour le duc Philippe. Dans l'angle en haut à droite, on voit une présentation du livre typique. C'est là, ou alors là. Donc on voit le seigneur de Créqui qui présente le manuscrit au duc. On le reconnaît parce qu'il a le collier de l'ordre de la Toison d'Or et il a la cotte courte, habit des nobles. Il s'agit d'un don. Nonobstant l'importance de ce don, la présentation se trouve en arrière-fond de l'image. Elle fait en effet un support. Alors qu'en avant de l'image, nous voyons le commerce dans tous les sens. Au premier plan se trouve un marché urbain aux portes de la ville. On y voit la nourriture, la boisson, les tissus et les bijoux. La partie de milieu de l'image, c'est celle-là. La partie du milieu de l'image renforce l'idée du commerce en tant qu'échange. Les courtiers qui sont en conversation alors que le nain du duc les approche et en haut à gauche, deux hommes font un échange par-dessus le balcon. Il y a le nain, les courtiers, voilà, l'échange. L'artiste Jean Le Tavernier, qui a enluminé le manuscrit entre 1458 et 1460, a supprimé le mur du palais ducal, peut-être pour signifier que le duc surveille et facilite les échanges entre la ville et la cour. D'ailleurs, les portes de la ville sont ouvertes, comme les murs du palais, comme pour faire passer librement la communication et l'échange. Pendant que le bon gouvernement du duc encourage le commerce, le marché urbain fournit aux courtiers les dons pour leur souverain. Le tavernier montre l'activité de la traduction comme une circulation entre le marché urbain et la cour, animée par le milieu des courtiers. L'image du tavernier est un commentaire sur le marché de la traduction qui transforme les traducteurs en fixeurs. Dans ce marché, ce que nous appelons la littérature, la culture n'est pas à part, elle fait ce monde bourguignon qui de plus s'ouvre sur le monde, les murs tombent et la perspective sur le dehors reste ouverte. Et tout cela se passe dans un manuscrit qui s'appelle « Les chroniques et conquêtes de Charlemagne », Charlemagne qui reste l'idéal du Saint-Empire. La participation à parts égales de ces fixeurs, ces intermédiaires de l'Empire, dans la création et la production de l'État bourguignon par leurs pratiques, nous permet de formuler autrement la question de l'écriture comme « agency », comme capacité d'agir, comme agentivité. Comment tout un genre, toute une littérature, voire toute une collection ou une bibliothèque peuvent être engagées non seulement dans un commentaire direct, consubstantiel à l'avènement d'un nouvel ordre politique, ou encore engagées dans la préfiguration d'un nouvel ordre politique, mais comment ils peuvent être engagés dans une construction, un avènement, une agentivité, une production d'un nouveau régime politique. La bibliothèque, donc, non pas comme un dépôt, comme un musée, comme une mémoire, mais comme la collection et le collectif à l'œuvre, le réseau qui est aussi un horizon d'attente. La bibliothèque comme une archive des possibles, le possible étant l'Empire Valois de Bourgogne. La bibliothèque comme l'archive historique des futurs possibles. C'est tout un réseau des bibliothèques bourguignonnes qui le met en œuvre, qui l'acte. Alors comment ? Le duc et son entourage entreprennent entre 1446 et 1480 un projet de traduction, c'est du latin en français, et de mise en prose depuis les originaux versifiés. Vous vous souvenez du pouvoir princier de la traduction dont nous avons parlé dans la troisième leçon, ça c'est la mise en œuvre de ça. Philippe et Charles commandaient surtout des histoires, alors que leur entourage encourageait plutôt les traductions, les mises en prose et les créations des romans historiques. Nous le verrons, la bibliothèque réunit le projet politique futur, ce régime politique impérial, et l'histoire archivée, l'histoire des croisades ou l'histoire de l'Empire d'Alexandre. Et voici encore une fois le côté performatif de la traduction, faire advenir la Bourgogne impériale. Comment la bibliothèque fonctionne-t-elle comme l'archive du possible, c'est-à-dire l'archive historique des futurs possibles ? Voici un premier exemple. Il a d'ailleurs produit une série de frontispices de présentation remarquables dans l'histoire de l'art. Jusqu'au début des années 1440, les ducs de Bourgogne achetaient les manuscrits de leur bibliothèque à Paris. Les manuscrits contenaient les ouvrages des traducteurs et auteurs français, et était produit dans les ateliers des libraires de Paris. Mais en mars 1446, Duc Philippe commande trois ouvrages historiques à son écrivain Jean Vauclin de Meaux. Ces ouvrages seront l'ossature de la bibliothèque ducale produite localement, en Flandre. Les faits et conquêtes d'Alexandre le Grand, les chroniques de Hainaut et Gérard de Roussillon. Vauclin traduit les chroniques de Hainaut depuis l'histoire latine écrite par Jacques de Guise. Et le comté de Hainaut était central dans la construction des Pays-Bas bourguignons en 1433 et c'est la première traduction que Vauclin termine. Gérard de Roussillon est une épopée en prose qui relate les faits et les gestes de Gérard, le premier duc de Bourgogne. Vauclin finira les faits et conquêtes d'Alexandre le Grand en dernier. Cette version en prose racontera les faits et conquêtes du très puissant et très redouté empereur Alexandre, qui, comme la commune réputation et renommée témoigne, fut roi et seigneur par sa prouesse de toute la terre d'Orient et d'Occident. Que nous dit cette première commande ducale ? Nous y trouvons deux territoires non contigus, la Bourgogne du Sud, Gérard de Roussillon, et le Hainaut, les chroniques de Hainaut, dans un cadre impérial, c'est celui des faits et conquêtes d'Alexandre. Voilà quel a été le début des commandes ducales en 1446, qui ont été suivies et soutenues par son entourage le plus proche, encore une fois commandées localement. Je vous rappelle donc que ça, c'était en 1446, et qu'en 1447, Philippe commence la poursuite du titre impérial auprès de l'empereur Frédéric pour la première fois. Ce n'est donc pas un projet communal après l'Empire, comme en Italie, mais il est impérial parce que communal, parce qu'il serait le projet d'une communauté à venir, celle que proclame Jean Vauquelin dans la première commande du duc pour sa bibliothèque, la chronique de Hainaut, je cite Vauquelin, « Comment ceux qui ont écrit la venue, ou l'arrivée et la naissance des lois et les généalogies ont désiré le salut de la communauté. » Cette idée de communauté suit une autre rubrique, un autre chapitre, où il dit « Comment ceux qui recueillent les écritures éparpillées appartenant à une région démontrent qu'ils désirent le bien de cette région et son salut. » Donc, la communauté, c'est le recueil que les fixeurs écrivent et rassemblent. Donc, on a ici un retour par cette écriture, par ce travail des fixeurs, de recueillir en communauté, entité politique. Deuxième exemple, la composition de la bibliothèque ducale dont parle Aubert et où se dessine nettement une nouvelle géographie. En voici les catégories. Ces catégories ont été complètement écartées par l'anachronisme moderne de genre littéraire. Nous parlons par exemple du roman, de la chronique, de la poésie, etc. Ou de l'encyclopédie. Le nombre important de presque 900 manuscrits de la bibliothèque ducale rend toute généralisation difficile. Néanmoins, on y voit apparaître l'Orient comme une catégorie distincte d'outre-mer. Quelque chose qu'on pourrait appeler la matière d'Orient devient visible si nous acceptons de mettre de côté cet anachronisme de genre et de suivre la géographie de la bibliothèque. L'Orient se trouve même dans la catégorie librairie chronique de France, comme dans la catégorie livre de gestes. J'y reviendrai. La matière d'Orient, dont je propose ici le nom, se veut ainsi englobante. Elle a l'ambition de désigner un espace tout à fait médiéval, de Rome, de Grèce, de Jérusalem, un espace médiéval dans un autre anachronisme, celui-ci typiquement médiéval, de fusion de plusieurs époques où le passé et le présent se mêlent. Le passé est traduit dans le présent médiéval sans beaucoup d'égard pour l'historicité. Ça devient un espace méditerranéen. C'est ainsi que 66 manuscrits sur Alexandre le Grand, le conquérant et l'empereur, se trouvent dans cette bibliothèque pour donner le modèle impérial, ou encore les manuscrits sur Jason, de l'ordre, la figure fondatrice de l'ordre chevaleresque ducal de la Toison d'Or, qui n'arrête pas d'inciter à la retraduction et à la production de nouveaux textes sur l'ancien Troie, ou encore les deux histoires de Flavius Joseph, les Antiquités judaïques ou la guerre des Juifs, et encore de nombreuses chroniques et traités de croisades, histoire tellement récente qu'elle fait quasiment partie du présent. La matière d'Orient inclut ainsi une variété de récits méditerranéens qui couvrent le monde musulman actuel, de cette histoire très récente, des croisades, l'Antiquité, c'est-à-dire aujourd'hui à l'époque l'Empire byzantin et Rome, et le passé judéo-chrétien. Mais c'est le site, l'Antique Grèce, la Syrie, la Terre Sainte, qui relie le passé au présent dans une forme de continuité historique. C'est le site qui relie l'Antiquité païenne, le judaïsme, les Césars de Rome et l'Alexandre de Grèce au moment contemporain des croisades et de l'affrontement de la chrétienté et de l'islam. C'est un passé qui reste présent, qui reste actif, qui est réactualisé. C'est cette même géographie historique que réactualisent les traductions, les mises en prose et les nouveaux récits que nous appelons aujourd'hui fictionnels, produit à la cour de Bourgogne et dont l'intrigue se déroule pour la plupart dans la Méditerranée. Ce sont les commandes par les conseillers du duc, Jean de Créqui, Jean de Croix, Jean de Vavrin, Louis de Gruthuse, Antoine de Bourgogne. Quand ils offrent les manuscrits au duc, la plupart de leurs dons vont dans la catégorie de livres de gestes. Et d'ailleurs, je tiens à signaler encore une fois sur cette histoire de genre que nous voyons ici, la répartition entre livre de gestes et livre de ballades et d'amour. Nous appellerions tout ça roman. Donc il n'y a pas de genre fixe de roman, mais au contraire, le terme livre de gestes nous indique qu'il s'agit ici d'un genre d'action, d'un manuel, peut-être même d'un traité de croisade. Moi, en tout cas, je les lis comme ça. La Bourgogne apporte une touche particulière à ce qu'on a pu appeler la Renaissance du Nord. Le frontispice de Gillon de Trazegnies est produit au pic de la constitution de ce qu'on a appelé l'État bourguignon. Le peintre ducal, Lieven van Lathem, transforme le traducteur en fixeur. Mais ce que je ne vous ai pas dit la première fois, c'est que ce fixeur est en vérité l'auteur de ce livre de gestes. Gillon de Trazegnies est un récit original, ce n'est pas une traduction. L'auteur se cache derrière un masque de fixeur. L'auteur se présente comme un fixeur et il reste anonyme. Gillon de Trazegnies n'a rien d'exceptionnel. Les livres de gestes bourguignons sont écrits sur ce mode de pseudo-traduction. La littérature, et devrais-je dire la production littéraire et artistique en Bourgogne, regorge d'acteurs qui n'accèdent pas au statut d'auteur. L'auteur se présente comme traducteur et reste le plus souvent anonyme. Il ne se reprend pas pour son propre compte. La culturalité et la gouvernementalité restent unies dans un même projet impérial. Toute une armée de fixeurs bourguignons participe à ce projet. Les écrivains et les traducteurs sont une masse d'agents impériaux, des acteurs, des actores, qui sont des auctores, des acteurs autant que des auteurs. Vous avez peut-être assisté au cours du 30 janvier 2018 du professeur Boucheron, qui est un cours magistral sur l'engagement politique et la gloire littéraire. Pétrarque est peut-être le premier qui se hisse au rang des auteurs qui n'ont que du mépris pour ceux qui sont restés actores, des simples acteurs de l'histoire, plutôt que d'en être des auteurs. On y voit ici, encore une fois peut-être, la différence entre le Nord et le Sud. La gloire individuelle par la littérature, un certain abandon du monde et du principe politique commun que prône Pétrarque contre un état des fixeurs anonymes, des acteurs et pas des auteurs qui font une littérature qui fait advenir un monde, un empire. Si on accepte l'égalité, comme je vous proposais, entre la gouvernementalité et la culturalité, les conseillers du duc n'étaient pas d'une part ses conseillers politiques et d'autre part ses conseillers littéraires. Au contraire, la littérature était une politique. Et cette littérature est d'ailleurs une littérature de fixeurs. Je reviens encore une fois à cet exemple de Gillon de Trazegnies de 1464. Je pourrais en citer bien d'autres. Gillon, chevalier de Hainaut, part en pèlerinage à Jérusalem. C'est bon. Et il suit l'itinéraire classique des pèlerins et des croisés. Il engage après un dragoman à Ramla, des guides dans le port de Jaffa, tout ce qu'on a vu la dernière fois. Plus tard, un autre chevalier de Hainaut, Amaury, embauchera un dragoman de Jérusalem, qui sera également son guide dans la traversée du désert sur le chemin du Caire. Le sultan d'Égypte parle aux chrétiens par un dragoman. Gillon, captif du sultan d'Égypte, lui-même deviendra un fixeur et apprendra l'arabe si bien qu'il se trouvera un jour à la tête de l'armée et pourra se faire passer pour le sultan. Alors tout ce qu'il faudrait pour une conquête, pour une croisade, y est dans ce roman. On a les itinéraires, on a les mœurs, on a les langues. Voici encore un exemple. Jean de Créqui fait mettre en prose Blancandin et l'Orgueilleuse d'amour, un roman en vers du XIIIe siècle. La commande de Créqui ne pourrait pas mieux illustrer cette littérature politique. La géographie des versions en vers et en prose diffère radicalement. La version en vers présente une géographie tout à fait fantasque. Le fils du roi de Frise, Blancandin, traverse toute la Méditerranée et le Moyen-Orient, Babylone, Inde la fière, la Perse, l'Éthiopie, Alexandrie, Jérusalem, Constantinople, Athènes. Le conflit majeur tout le long du roman oppose les chrétiens et les sarrasins. Alors, la version du XVe siècle, celle commandée par Créqui, réécrit entièrement le roman en une géographie impériale. Blancandin est toujours le fils du roi de Frise, est commencé depuis 1433 La Frise occidentale faisait partie des Pays-Bas bourguignons. Philippe le Bon a réussi à en obtenir le titre avec la Hollande, le Hainaut et la Zélande. Et je vous rappelle que Frise était la première pierre que posait Philippe dans son édifice impérial. Un autre fait signifiant qui recentre définitivement le roman sur ses nouvelles possessions bourguignonnes du Nord, la Prusse a remplacé l'Inde. Tormadé, la ville d'Orgueilleuse d'amour, se trouve désormais en Roumanie. La cité de Cassidoine, d'où viennent les ennemis sarrasins, se trouve maintenant dans le Nord, au pays de Norvège. Et donc la version de Créqui déplace l'action de la Méditerranée vers la mer du Nord, et l'action principale se situe entre la Frise, la Norvège et la Prusse. Les Frisons sont chrétiens, mais les Norvégiens et les Prussiens sont sarrasins et païens. Cette concentration sur la Frise et les pays d'une Méditerranée du Nord, c'est-à-dire autour de la mer du Nord, indique une volonté concertée d'explorer une progression impériale autour de la Frise. À la fin, Blancandin deviendra roi de Frise et de Tourmadé, alors que Philippe le Bon voulait devenir le roi de Frise, titre qui aurait servi à son ambition impériale. Le Blancandin de Créqui passe donc d'une version méditerranéenne à une version nordique. En cela, il est une traduction, il me semble, d'une ambition royale et impériale. Mais d'autres livres de gestes, commandés par Creuil, Voivrin et Créqui, dessinent d'autres territoires. L'histoire d'Olivier de Castille et Artus d'Algarve, c'est la Castille et le Portugal. Florimond et l'histoire des seigneurs de Gavre, c'est l'Empire byzantin. L'histoire des trois fils de roi, c'est la Sicile, Alphonse d'Aragon et le Saint-Empire, et ainsi de suite. Alors, vous me direz, je m'en doute, vous me direz, vous êtes une littéraire, et certes, ce sont de belles fictions politiques. Mais on les a trop longtemps associés à un rêve, à une projection, à une représentation, à une fiction. La vue d'ensemble des chroniques, des traités de croisade, des récits de voyage dans la bibliothèque ducale, avec les chansons de gestes notoires pour les confrontations entre chrétiens et musulmans, et des livres de gestes commandés par l'entourage ducal, qui les réactualise, offre des feuilles de route, tout un réseau d'agencements possibles pour la création d'un nouvel empire, l'Empire Valois de Bourgogne. Richissime, les bibliothèques bourguignonnes sont un empire des livres. Elles le sont en tant qu'histoire d'un empire à venir, en tant qu'archive historique de ce futur possible. L'intérêt pour les fixeurs qu'elles manifestent ne serait ni une représentation, ni une fiction, mais une façon de réfléchir à la logistique et aux itinéraires possibles. Si on prend les livres de la matière d'Orient comme autant de pièces de puzzle, comme autant d'itinéraires possibles, comme autant de cartes régionales, si on comprend que les livres de gestes des conseillers ducaux les réactualisent à l'échelle de la collection mise en réseau, c'est-à-dire perçue collectivement, la bibliothèque se révèle comme une carte géographique et géopolitique de l'Europe du Nord et de la Méditerranée, c'est-à-dire l'ancienne Lotharingie, qu'essaie de reproduire d'ailleurs Charles le Téméraire. Mais la bibliothèque n'est pas pour autant une représentation cherchant à encourager l'imitation. Hein, par exemple, on pourrait imiter en faisant une nouvelle croisade en Terre Sainte ou recréer un empire d'Orient. Mais plutôt, elle est là pour encourager la pratique et le passage à l'action dans un nouveau contexte contemporain. Donc, de la mer du Nord jusqu'à la Méditerranée, le titre impérial de Lotharingie. Non pas l'imitation de l'original, mais l'invention de la traduction. La bibliothèque traduit et dessine la carte d'un empire à venir, la bibliothèque traduit et dessine la carte du monde telle qu'il a été par le passé, telle qu'il est dans le présent, mais aussi la carte d'un empire à venir. Ainsi, la bibliothèque agit comme l'archive du possible, où la croisade ou l'Empire d'Alexandre n'est qu'un discours, un moyen discursif pour une fin impériale. Alors je terminerai notre voyage en quête des fixeurs du Moyen-Âge et d'une nouvelle histoire impériale, là où nous avons commencé, avec la translation de Christophe Colomb par Marco Polo, qui produit l'Empire du Nouveau Monde. Vous vous souvenez, quand Christophe Colomb part vers l'Ouest en 1492, il emporte avec lui le devisement du monde de Marco Polo. Colomb cherchait la route par l'Ouest pour rejoindre la cour du grand Khan mongol. Mais pourquoi la route de l'Ouest ? Parce que Colomb, au fond, ne faisait que suivre la logique médiévale de la translatio qui se déplaçait toujours de l'Est vers l'Ouest. On sait par ailleurs que Colomb était très influencé par les traités de croisade et par un certain Jean Mondeville, ce dernier étant un récit de l'Extrême-Orient entièrement fabriqué. C'est déjà un réseau, hein, c'est déjà un réseau entre Marco Polo, Jean Mondeville et les traités de croisade. Ce n'est pas une seule œuvre qui aurait changé la face du monde. Ainsi, Colomb cherchait aussi une autre route vers Jérusalem, la voie de la reconquête possible de la Terre Sainte. Et il ne faut pas oublier non plus que la Reconquista était en train de se terminer en Espagne. Et il cherchait cette nouvelle route vers Jérusalem à la base d'un réseau de récits historiques, les traités de croisade, et fabriqué, Jean Mondeville. 50 ans après Colomb, Historia de los Indios de la Nueva España, du frère Toribio de Montolinía, contient la description d'un auto sacramental qui aurait été joué sur les ruines de Tlaxcalan en 1539. Au centre se trouvait une Jérusalem musulmane, assiégée par deux armées, l'armée d'Espagne et de Nouvelle-Espagne. Hernán Cortés, le conquérant du Mexique, y tenait le rôle du grand sultan de Babylone et de Tlatoani de Jérusalem. C'est le mot de langue nahuatl pour roi, donc il était le grand sultan et le roi de Jérusalem. L'auto sacramental illustrerait donc la logique de la translatio qui faisait agir Colomb, de poursuivre toujours le mouvement de l'imperium, l'empire, vers l'ouest, le Mexique et le Proche-Orient, Tlaxcalan et Jérusalem, et l'ancien programme de croisade en Terre Sainte est réactualisé dans un nouveau contexte. Il ne s'agit pas d'une imitation du passé, mais de la réalisation d'un avenir possible, de la réalisation même de l'archive du possible. Le Mexique est le potentiel futur inscrit dans le passé, Jérusalem. L'auto sacramental n'est donc ni un fantasme, ni un geste compensatoire, mais la transformation matérielle du potentiel en un monde des possibles. Reconquérir Jérusalem en découvrant la route par l'Ouest, et conquérir le Mexique, le nouveau Jérusalem. La découverte de ce monde, qu'on dit « nouveau », est un effet de la volonté de reconquérir la Terre Sainte, mais l'expansion en Nouvelle-Espagne est la réalisation de ce potentiel. Ce n'est pas une imitation, une mimésis, ce n'est pas une représentation, c'est la bibliothèque dont tout son pouvoir d'imagination, une archive des possibles, une bibliothèque actante. L'Empire Valois de la Bourgogne sera devenu l'Empire des Habsbourg, de la mer du Nord jusqu'à la Méditerranée, et la Nouvelle Terre Sainte, la Nouvelle-Espagne. À partir de la rhétorique de la traduction, du pouvoir symbolique du récit et de l'objet qui le porte, jusqu'à la bibliothèque bourguignonne, cet empire des livres, la bibliothèque a été l'actant, la mise en œuvre de l'empire à venir, celui qui n'est pas advenu pour les ducs de Bourgogne, mais qui est advenu pour Charles Quint, qui sera à la tête du plus grand empire que le Moyen-Âge aura produit, et je dirais même, je m'avancerai, à la tête du plus grand empire médiéval. Si on considère une bibliothèque comme un système de règles mis en place, les livres qui sont choisis et dont les rapports vont s'établissant à chaque fois qu'augmente la collection, les livres produisent entre eux-mêmes un horizon d'attente doté de nouvelles règles. Cet horizon d'attente aura été l'Empire bourguignon, advenu sous les Habsbourg avec l'ascension de Charles V au titre impérial en 1519. Une bibliothèque fait advenir dont l'assemblage est le disparate, dont l'hétérogène est le manque de cohérence, dont le collage voulu qu'elle est, une nouvelle configuration. Elle mobilise par ses éléments d'assemblage des réponses différentes à des questions qui sont ou ne sont pas encore posées. Il ne s'agit pas au fond de postuler l'horizon d'attente de l'œuvre singulière, comme l'a fait Hans Robert Jauss dans son livre « Pour une esthétique de la réception ». Mais il s'agit de postuler l'horizon d'attente d'un réseau. Les bibliothèques bourguignonnes peuvent être exploitées comme une archive richissime de la construction de l'avenir politique de la Bourgogne. Leurs fictions politiques sont une archéologie du possible, l'empire du possible, et c'est leur horizon d'attente qui permet l'écriture de l'histoire connectée. Cette histoire connectée n'est autre que l'histoire de la littérature connectée, une littérature qui fait advenir son siècle. J'utilise à dessein ici le mot siècle, le mot médiéval qui veut dire le étant et monde. La littérature connectée est le monde qu'elle fait advenir dans le temps. La littérature connectée, celle que la bibliothèque nous fait voir, pose la question essentielle dans notre monde néolibéral et présentiste, dans le monde où les États veulent effacer leurs fixeurs d'aujourd'hui, dans le système qui veut nous faire croire que nous vivons dans l'immédiat, en accès direct, sans intermédiaire. Elle nous fait poser cette question de comment la littérature a-t-elle fait advenir un monde ? Et inversement, que peut la littérature aujourd'hui ? Je crois que c'est ce pouvoir même qu'a la littérature de créer le monde et de constituer une archive des possibles qui nous permet de réfléchir globalement aux intermédiaires et d'écrire une nouvelle histoire de la littérature connectée, et tout simplement une nouvelle histoire connectée, et ainsi de participer au discours public, politique et culturel en interrogeant inlassablement l'endroit et la temporalité de l'intermédiaire, le dispositif du fixeur. C'est pour le moins une question éthique parce qu'elle est économique, impossible mais nécessaire. Alors je vous remercie d'avoir été ici, je vous remercie de votre écoute, de votre patience, de m'avoir accompagné dans ce parcours de nos contemporains, des fixeurs du Moyen-Âge.